Testament d'un excentrique, chapitre 9. 1 et 1 font 2. Ce matin-là, un hôtel, ou pour mieux dire une auberge, l'auberge de Sandibar, et non des plus qualifiés, recevait deux voyageurs arrivés par le premier train à Calais, simple bourgade de l'état du Maine. Ces deux voyageurs, un homme et une femme, visiblement éprouvés par les fatigues d'un long et pénible itinéraire, se firent inscrire sous le nom de Monsieur et Madame Field. Ce nom, avec ceux de Smith, de Johnson et quelques autres d'usage courant, sont des plus communs parmi les familles d'origine anglo-saxonne. Aussi faut-il être doué de qualités extraordinaires, avoir acquis une situation considérable dans la politique, les arts ou les armes, être un génie, en un mot, pour attirer l'attention publique lorsqu'on s'appelle de ce nom vulgaire. Donc, Monsieur et Madame Field, cela ne disait rien, n'indiquait point des personnages de marque, et l'aubergiste les inscrivit sur son livre sans en exiger davantage. À cette époque, du reste, dans tous les États-Unis, aucun nom n'était plus répandu, plus répété par des millions de bouches que ceux des partenaires et celui du fantaisiste membre de l'excentrique club. Or, pas un des sept ne se nommait Field. Donc, à Calais, il n'y avait pas plus à s'occuper de ces Fields-là que de n'importe quel voyageur. D'ailleurs, ceux-ci ne payaient pas de mine, et le tenancier de l'auberge se demanda peut-être s'il paierait d'autre façon lorsque sonnerait l'heure de régler la note. Que venait faire ce couple étranger en cette petite ville, située à l'extrême limite d'un état, situé lui-même à l'extrémité nord-est de l'Union? Pourquoi avait-il ajouté deux unités aux 661 000 habitants de cet état, dont la superficie occupe la moitié du territoire communément appelé la Nouvelle-Angleterre? La chambre du premier étage qui fut donnée à Monsieur et Madame Field dans l'auberge de Sandibar était peu confortable. Un lit pour deux, une table, deux chaises, une toilette. La fenêtre s'ouvrait sur la rivière Sainte-Croix, dont la rive gauche est canadienne. L'unique malle, déposé à l'entrée du corridor, avait été apporté par un commissionnaire de la gare. En un coin se dressaient deux épais parapluies et s'étalait un vieux sac de voyage. Lorsque Monsieur et Madame Field furent seuls, après la sortie de l'aubergiste qui les avait conduits à cette chambre, dès que la porte eut été refermée, verrou tiré en dedans, tous deux vinrent coller leur oreille contre le ventail, voulant s'assurer que personne ne pourrait les entendre. « Enfin, dit l'un, nous voici au terme du voyage. » « Oui, répondit l'autre, après 3 jours et 3 nuits bien comptés depuis notre départ. « J'ai cru que cela ne finirait pas, reprit Monsieur Field en laissant retomber ses bras, comme si ses muscles eussent été hors d'état de fonctionner. « Ce n'est pas fini, dit Madame Field. « Et combien cela nous coûtera-t-il? « Il ne s'agit pas de ce que cela peut coûter, répliqua aigrement la dame, mais de ce que cela peut rapporter. « Enfin, ajouta le monsieur, nous avons eu la bonne idée de ne pas voyager sous nos noms véritables. « Une idée de moi. « Et excellente. Nous vois-tu à la merci des hôteliers, des aubergistes, des voituriers, de tous ces écorcheurs, engraissés de ceux qui passent par leurs mains, et cela sous prétexte que des millions de dollars vont tomber dans notre poche. « Nous avons bien fait, répliqua Madame Field, et nous continuerons à réduire nos dépenses le plus possible. Ce n'est pas dans les buffets des gares que nous avons jeté notre argent depuis 3 jours. Et j'espère bien continuer. « N'importe, nous aurions peut-être mieux fait de refuser. « Assez, Herman !» déclara Madame Field d'un ton impérieux. « N'avons-nous pas autant de chance que les autres d'arriver premier ?»« Sans doute, Kate, mais le plus sage aurait été de signer l'engagement, de se partager l'héritage. « Ce n'est pas mon avis. D'ailleurs, le commodore Hurricane y faisait opposition. » Et cette XKZ n'était pas là pour donner son consentement. « Eh bien, veux-tu que je te dise ?» répliqua M. Field. « C'est celui-là que je redoute entre tous. On ne sait qui il est, ni d'où il sort. Personne ne le connaît. Il se nomme XKZ. Est-ce que c'est un nom, cela ? Est-ce qu'il est convenable de s'appeler XKZ ?» Ainsi s'exprima M. Field. Mais s'il ne se cachait pas sous des initiales, n'avait-il pas changé Tidbury en Field? Car le lecteur l'a reconnu, rien qu'à ces quelques phrases échangées entre la fausse Madame Field et lui, et dans lesquelles se révélaient leurs abominables instincts d'avarice. Oui, c'était bien Herman Tidbury, le troisième partenaire que l'idée, par un et un, avait envoyé à la deuxième case, État du Maine. Et quelle malchance, puisque ce coup ne l'avançait que de 2 pas sur 63, tout en l'obligeant à gagner l'extrême pointe nord-est de l'Union. En effet, le Maine confine à la puissance du Canada et au Nouveau-Brunswick. Entré dans la Confédération depuis 1820, il a pour limite orientale la baie de Passamaquoddy, dans laquelle la rivière Sainte-Croix envoie ses eaux. De même que l'État, divisé en 12 comtés, envoie 2 sénateurs et 50 députés au Congrès. Cette baie nationale, pourrait-on dire avec quelques prétentions, où se déversent les fleuves politiques de l'USA. Monsieur et Madame Tidbury avaient quitté, dès le soir du 5 mai, leur maison louche de Robey Street, et ils occupaient maintenant cette auberge borgne de Calais. On sait quelles raisons leur avaient fait adopter un nom d'emprunt. N'ayant indiqué à personne le jour et l'heure de leur départ, ce voyage s'était effectué dans le plus strict incognito, comme celui de Max Réal, pour des motifs très différents, il est vrai. Cela ne laissa pas de contrarier les parieurs, car, il faut l'avouer, Herman Tidbury se présentait en remarquable performance dans cette course au million. Nul doute que sa cote dût monter au cours de la partie et qu'il deviendrait un des favoris du match. N'était-il pas de ces privilégiés auxquels tout réussit ici-bas, étant peu scrupuleux sur les moyens qu'ils emploient à s'assurer le succès? Sa fortune lui permettrait de payer les primes, si le sort lui en imposait. Et quelque importante qu'elle fusse, il n'hésiterait pas à les verser argent comptant. En outre, il ne s'abandonnerait à aucune distraction ou fantaisie au cours de ses déplacements, comme le feraient peut-être Max Réal et Ariste Kimball. Était-il à craindre qu'il fût retardé par sa faute en se rendant d'un état à l'autre? Non, et certitude absolue qu'il serait toujours dit à l'endroit indiqué. Assurément, c'était des garanties sérieuses qu'offrait Herman Tidbury, sans parler de sa chance personnelle, qui ne l'avait jamais trahi dans son existence d'homme d'affaires. Le digne couple avait eu soin de combiner l'itinéraire le plus rapide et le moins dispendieux à travers cet inextricable réseau de railroads tendu comme une immense toile d'araignée sur les territoires de l'Union orientale. C'est ainsi que, sans s'arrêter, sans s'exposer à être dévalisé dans les buffets des stations ou les restaurants des hôtels, vivant uniquement de leurs provisions de route, passant d'un train à l'autre avec la précision d'une muscade entre les mains d'un prestidigitateur, ne s'intéressant pas plus aux curiosités du pays que Tom Webb, toujours absorbé dans les mêmes réflexions, toujours poursuivi des mêmes inquiétudes, inscrivant leurs dépenses quotidiennes, comptant et recomptant la somme emportée pour les besoins du voyage, somnolant le jour, dormant la nuit, Monsieur et Madame Tidbury avaient traversé l'Illinois de l'ouest à l'est, puis l'État de l'Indiana, puis celui de l'Ohio, puis celui de New York, puis celui de New Hampshire. Et c'est ainsi qu'ils avaient atteint la frontière du Maine dans la matinée du 8 mai, au pied du mont Washington du groupe des Montagnes Blanches, dont la cime neigeuse, au milieu des averses et des grêles, porte à une altitude de 5750 pieds le nom du héros de la République américaine. De là, Monsieur et Madame Tilbury atteignirent Paris, puis Livingston sur l'Androsogin, cité manufacturière, doublée du municipe d'Auburn, qui rivalise avec l'importante ville de Portland, l'un des meilleurs ports de la Nouvelle-Angleterre, abrité dans la baie de Casco. Le Wellwood les transporta ensuite à Augusta, la capitale officielle du Maine, dont les élégantes villas s'éparpillent sur les rives du Kennebec. De la station de Bangor, il fallut alors remonter vers le nord-est jusqu'à celle de Bacaughan, où s'arrêtait la voie ferrée, et redescendre en stage jusqu'à Princeton, qu'un tronçon relie directement à Calais. Voilà de quelle façon, avec fréquents et désagréables changements de train, s'était accomplie la traversée du Maine, dont les touristes visitent volontiers les cirques de montagne, les champs de moraine, les plateaux lacustres, les profondes et inépuisables forêts de chênes, de pins du Canada, d'érables, de hêtres, de bouleaux, essence des régions septentrionales qui fournissaient le bois des chantiers avant l'adoption des coques de fer dans les constructions maritimes. Monsieur et Madame Tilbury, alias Field, étaient arrivés à Calais le 9 mai, dès la première heure, et en avance notable, puisqu'ils allaient être contraints d'y demeurer jusqu'au 19. Ce serait une dizaine de jours à passer en cette bourgade de quelques milliers d'habitants, simple port de cabotage. À quoi y occuperaient-ils leur temps, jusqu'à l'heure où un télégramme de maître Thornbrook les en ferait repartir? Et cependant, que d'excursions charmantes offrent le territoire si varié du Maine! Vers le nord-ouest, c'est la magnifique contrée que domine de 3500 pieds le mont Katahdin, énorme bloc de granit émergeant du dôme des forêts dans la région des plateaux lacustres. Et cette ville de Portland, riche de 36 000 âmes, qui vit naître le grand poète Longfellow, animé par son important trafic avec l'Amérique du Sud et les Antilles. Ces monuments, ces parcs, ces jardins, que les très artistes habitants entretiennent avec tant de goût. Et cette modeste Brunswick, avec son célèbre collège de Bowdoin, dont la galerie de tableaux attire de nombreux amateurs. Et puis, au sud, le long des rivages de l'Atlantique, ces stations balnéaires si recherchées pendant la saison chaude par les opulentes familles des États voisins, lesquelles seraient disqualifiées si elles ne leur consacraient quelques semaines, entre autres cette merveilleuse île de Mount Desert et son refuge de Bar Harbor. Mais de demander ces déplacements à deux mollusques arrachés de leur banc natal et transportés à 900 milles de là, c'eût été peine inutile. Non, ils ne quitteraient Calais ni un jour ni une heure. Ils resteraient en tête à tête, supputant leur chance, maudissant d'instinct leur partenaire, après avoir réglé 100 fois déjà l'emploi de leur nouvelle fortune, si le hasard les rendait 300 fois millionnaires. Et au fait, est-ce qu'ils n'en seraient pas embarrassés? Embarrassés, eux, de ces millions? Soyez sans inquiétude, ils sauraient les placer en valeur de toute sécurité. Actions de banques, de mines, de sociétés industrielles, et ils toucheraient leurs immenses revenus, et ils ne les dissiperaient pas en fondations charitables, et ils les replaceraient sans en rien distraire pour leur confort, pour leur plaisir, et ils vivraient comme devant, concentrant leur existence dans l'amour des écus, dévorés de l'auri sacra fames. Cancres qu'ils étaient, caques de nier, comme on disait jadis, grigous, pleutres et rats, voués à la lésinerie, à la ladrerie, pince-mailles et tirliards, membres perpétuels de l'Académie des pleurs-misères. En vérité, si le sort favorisait cet affreux couple, c'est sans doute qu'il aurait ses raisons. Lesquelles? Il eût été difficile de l'imaginer. et ce serait au détriment de partenaires plus dignes de la fortune de William J. Hyperbone, et qui en feraient meilleur usage, sans en excepter Tom Queb, sans en excepter le Commodore Ewican. Les voici donc tous les deux, à l'extrémité du territoire fédéral, dans cette petite ville de Calais, cachée sous ce nom de Field, ennuyés et impatients, regardant les bateaux de pêche sortir à chaque marée et rentrer avec leur charge de maquereaux, de harengs et de saumons. Puis ils revenaient se confiner dans la chambre de Sandy Bar, toujours tremblant à cette idée que leur identité risquait d'être découverte. En effet, Calais n'est pas seulement perdu au fond du Maine que les bruits du fameux match ne fussent parvenus jusqu'à ses habitants. Ils savaient que la deuxième case était attribuée à cet état de la Nouvelle-Angleterre, et le télégraphe leur avait appris que le troisième coup de dé, 1 et 1, obligeait le partenaire Herman Tidbury à séjourner dans leur ville. Ainsi se passèrent les 9, 10, 11 et 12 mai, en un profond ennui dans cette bourgade peu récréative. Max Réal lui-même ne l'aurait pas surmonté sans peine. À déambuler le long de rues bordées de maisons de bois, à flâner sur les quais, le temps paraît être d'une interminable durée. Et cette dépêche indiquant un nouvel itinéraire, qui ne devait pas être lancé avant le 19, de quelle patience il faudrait s'armer pour l'attendre pendant 7 longs jours encore! Et pourtant, le couple Tidbury avait alors une occasion très simple de faire un tour à l'étranger en traversant la rivière Sainte-Croix, dont la rive gauche appartient au Dominion of Canada. C'est ce que se dit Herman Tidbury. Aussi, dans la matinée du 13, en fit-il la proposition en ces termes. « Décidément, au diable cette Hyperbone! Et pourquoi a-t-il choisi la ville la plus désagréable du Maine pour y envoyer les partenaires qui ont la mauvaise chance d'amener le numéro 2 au début de la partie ?»« Prends garde, Herman !» répondit Miss Tidbury à voix basse. « Si quelqu'un t'entendait, puisque le sort nous a conduits à Calais, il faut bon gré, mal gré, rester à Calais. Ne nous est-il donc pas permis de quitter la ville ?»« Sans doute, mais à la condition de ne point sortir du territoire de l'Union. » »« Ainsi, nous n'avons même pas le droit d'aller de l'autre côté de la rivière. » En aucune façon, Herman. Le testament interdit d'une manière formelle de sortir des États-Unis. Mais qui le saurait, Kate ? S'écria M. Tidbury. Je ne te comprends pas, Herman, répliqua la matrone, dont le ton se haussa. Est-ce bien toi qui parles ? Je ne te reconnais plus. Et si plus tard on apprenait que nous avons franchi la frontière ? Et si quelque accident nous y retenait ? Et si nous n'étions pas revenus à temps, le 19 ? D'ailleurs, je ne le veux pas. » Et elle avait raison de ne pas le vouloir, l'impérieuse Madame Tidbury. Sait-on jamais ce qui peut arriver ? Supposez qu'il se produise un tremblement de terre, que le nouveau Brunswick se détache du continent, que cette partie de l'Amérique se disloque, qu'un abîme se creuse entre les deux pays. Comment alors se trouver au bureau du télégraphe le jour convenu, et ne risquerait-on pas d'être mis hors du match ? Non, nous ne pouvons traverser la rivière, déclara péremptoirement Madame Tidbury. Tu as raison, cela nous est interdit, répliqua Monsieur Tidbury. Et je ne sais pas comment j'ai eu cette idée. En vérité, depuis notre départ de Chicago, je ne suis plus le même. Ce maudit voyage m'a abruti. Pour des gens qui n'ont jamais bougé de leur maison de Hobby Street, nous voilà courant les grandes routes, à notre âge. Et n'aurions-nous pas mieux fait de rester au logis, de refuser la partie ? 60 millions de dollars, cela vaut la peine de se déranger, déclara Madame Tidbury. Décidément, tu te répètes un peu trop, Herman. Quoi qu'il en soit, Saint-Stéphane, ville de la puissance qui occupe l'autre rive de Sainte-Croix, n'eut pas l'honneur de posséder le couple Tilbury. Il semble donc que des particuliers si précautionneux, d'une prudence si excessive, qui offraient plus de garanties que les autres partenaires, auraient dû être à l'abri de toute fâcheuse éventualité, qu'ils ne seraient jamais pris en défaut, qu'il ne leur arriverait rien de nature à les compromettre. Mais le hasard aime à se jouer des plus habiles, à leur préparer des embûches dont toute leur sagesse ne saurait les garder, et il n'est que raisonnable de compter avec lui. Or, dans la matinée du 14, monsieur et madame Tilbury eurent l'idée de faire une excursion. Que l'on se rassure, ils n'entendaient pas s'éloigner, 2 ou 3 milles seulement en dehors de Calais. On observera, en passant, que si cette ville a reçu ce nom français, c'est qu'elle est située à l'extrémité des États-Unis, comme son homonyme l'est à l'extrémité de la France. Et quant à l'état du Maine, son nom lui vient des premiers colons qui s'y établirent sous le règne de Charles Ier d'Angleterre. Le temps était orageux, des nuages lourds se levaient à l'horizon, la chaleur vers midi serait accablante, journée mal choisie pour une promenade qui se ferait à pied en remontant la rive droite de Sainte-Croix. Monsieur et madame Tilbury quittèrent l'auberge vers 9 heures et cheminèrent le long de la rivière, puis en dehors de la ville, à l'ombre des arbres, entre les branches desquelles cabriolaient des milliers d'écureuils. Le couple s'était au préalable assuré, près de l'hôtelier, qu'aucun fauve ne courait la campagne environnante. Non, ni loup, ni ours, quelques renards uniquement. On peut donc s'aventurer en toute confiance, même à travers ces forêts, qui faisaient jadis de l'état du Maine une immense sapinière. Il va de soi que monsieur et madame Tilbury ne se préoccupaient point des paysages variés qui s'offraient à leurs regards. Ils ne parlaient que de leurs partenaires, ceux qui étaient partis avant eux, ceux qui partiraient après, où étaient actuellement Max Real et Tom Quebb, et toujours cette XKZ dont ils s'inquiétaient plus que de tout autre. Enfin, après une marche de 2 heures et demie, midi approchant, ils songèrent à regagner l'auberge de Sandy Bar pour le déjeuner. Mais, dévorés de soif sous cette accablante chaleur, ils s'arrêtèrent dans un cabaret situé sur la berge à 1/2 mile de la bourgade. Quelques buveurs, réunis dans ce cabaret, occupaient des tables où s'alignaient les pintes de bière. Monsieur et madame Tilbury s'assirent à l'écart et délibérèrent d'abord sur ce qu'ils se feraient servir. « Je crains que cela ne soit un peu froid, » observa madame Tilbury. « Nous sommes en nage et ce serait se risquer. » « Tu as raison, Kate, et une pleurésie est vite attrapée, » répondit monsieur Tilbury. Puis, se retournant vers le buvetier, « Un grog au whisky ? » demanda-t-il. Aussitôt, le buvetier de s'écrier, « Au whisky, avez-vous dit ?»« Oui, ou au gin. » »« Où est votre permission ?»« Ma permission ?» répliqua monsieur Tilbury, très étonné de cette question. Et il ne l'eût pas été s'il se fût souvenu que le Maine appartient au groupe des États qui ont établi le principe de prohibition de l'alcool. Oui, au Kansas, au North Dakota, au South Dakota, au Vermouth, au New Hampshire, au Maine surtout, il est défendu de fabriquer et de vendre des boissons alcooliques, distillées ou fermentées. Seul, dans chaque localité, des agents municipaux sont chargés d'en donner, contre argent, à ceux qui les achètent pour un usage médical ou industriel, et après que ces boissons ont été expertisées par un commissaire de l'État. Enfreindre cette loi, rien que par une demande imprudente, c'était s'exposer aux pénalités sévères édictées en vue de la suppression de l'alcoolisme. Aussi, à peine monsieur Tilbury eut-il parlé, qu'un homme s'approcha. « Vous n'avez pas de permission régulière ? Alors je vous déclare contravention. »« Contravention ? À quel propos ? Pour avoir demandé du whisky ou du gin. » C'était un agent, cet homme, un agent en tournée, qui inscrivit le nom de monsieur et de madame Field sur son carnet et les prévint qu'ils auraient à se présenter le lendemain devant le juge. Le couple rentra tout penaud à l'auberge. Et quelle journée, quelle nuit il y passa! Si c'était madame Tilbury qui avait eu cette déplorable idée d'entrer au cabaret, c'était monsieur Tilbury qui avait eu celle non moins déplorable de préférer un grog à la pinte d'ale. À quelle amende tous deux s'étaient-ils exposés? De là, récriminations et disputes qui durèrent jusqu'au jour. Le juge, un certain R. T. Hordak, était bien l'être le plus désagréable, le plus grincheux et aussi le plus susceptible que l'on pût imaginer. Le lendemain, dans la matinée, lorsque les contrevenants introduits dans son cabinet comparurent devant lui, il ne tint aucun compte de leur politesse et les interrogea brusquement, brièvement. Leur nom? Monsieur et madame Field? Le lieu de leur domicile? Ils indiquèrent au hasard Harrisburg, Pennsylvanie. Leur profession? Rentier. Puis il leur envoya en pleine figure $100 d'amende pour avoir enfreint les prohibitions relatives aux boissons alcooliques dans l'état du Maine. C'était trop fort! Si maître de lui qu'il fût, et malgré les efforts de sa femme qui tenta vainement de le calmer, monsieur Tilbury ne put se contenir. Il s'emporta. Il menaça le juge R.T. Hordak, et le juge R.T. Hordak doubla l'amende. $100 supplémentaires pour avoir manqué de respect à la justice. Ce supplément rendit monsieur Tilbury plus furieux encore. $200 à ajouter aux dépenses déjà faites pour se transporter à l'extrême limite de ce maudit état du Maine. Exaspéré, le contrevenant oublia toute prudence et alla même jusqu'à sacrifier les avantages que lui assurait son incognito. Et alors, les bras croisés, la figure en feu, repoussant madame Tilbury avec une violence inaccoutumée, il se courba sur le bureau du juge et lui dit « Savez-vous bien à qui vous avez affaire ?»« À un malappris, que je gratifie de $300 d'amende puisqu'il continue sur ce ton. » répliqua, non moins exaspéré, R.T. Hordak. « $300 ?» s'écria madame Tilbury en tombant, demi-pâmée sur un banc. « Oui, » reprit le juge en accentuant chaque syllabe. « $300 à monsieur Field d'Harrisburg, Pennsylvanie. »« Eh bien !» hurla monsieur Tilbury en frappant le bureau du poing. « Apprenez donc que je ne suis pas monsieur Field d'Harrisburg, Pennsylvanie. »« Et qui êtes-vous donc ?»« Monsieur Tilbury, de Chicago, Illinois. » »« C'est-à-dire un individu qui se permet de voyager sous un faux nom ?» repartit le juge, comme s'il eût dit « Encore un crime à ajouter à tant d'autres. »« Oui, monsieur Tilbury de Chicago, le troisième partant du match Hyperbone, le futur héritier de son immense fortune. » Cette déclaration ne parut produire aucun effet sur R.T. Hordak. Ce magistrat, aussi mal embouché qu'impartial, n'entendait pas faire plus de cas de ce troisième partenaire que de n'importe quel matelot du port. Aussi, de sa voix sifflante, et comme s'il suçait chacun de ces mots, prononça-t-il. « Eh bien, ce sera monsieur Tilbury de Chicago, Illinois, qui paiera les $300 d'amende, et en outre, pour s'être permis de se présenter devant la justice sous un nom qui n'est pas le sien, je le condamne à 8 jours de prison. » Cela fut le comble, et auprès de madame Tilbury, écroulée sur son banc, monsieur Tilbury s'écroula à son tour. « 8 jours de prison ? Et c'était dans 5 jours qu'arriverait la dépêche attendue. Et le 19, il faudrait repartir pour aller peut-être à l'autre extrémité des États-Unis. Et faute d'y être aujourd'hui, on serait exclu de la partie engagée. » On l'avouera, voilà qui était autrement grave pour monsieur Tilbury que s'il eût été envoyé à la 52e case, état du Missouri, dans la prison de Saint-Louis. Là, du moins, il aurait encore eu la possibilité d'être délivré par un de ses partenaires, tandis que dans la prison de Calais, et de par la volonté du juge R.T. Hordak, il resterait enfermé jusqu'à l'expiration de sa peine. Chapitre 10. Un reporter en voyage. Oui, messieurs, oui. Je considère ce match Hyperbone comme l'une des plus étonnantes éventualités nationales dont se sera enrichie l'histoire de notre glorieux pays. Après la guerre de l'indépendance, la guerre de sécession, la proclamation de la doctrine de Monroe, l'application du Bill McKinley, c'est le fait le plus marquant que l'imagination d'un membre de l'excentrique club ait imposé à l'attention du monde. Ainsi parlait Awist et Kimball en s'adressant aux voyageurs du train qui venait de quitter ce jour-là, 7 mai, la cité chicagoise. Le reporter de la Tribune, débordant de joie et de confiance, allait ainsi, pérorant de l'avant à l'arrière du wagon par le couloir central, puis d'un wagon à l'autre par la passerelle jetée entre eux, puis de la tête à la queue du convoi lancé à toute vapeur, qui contournait alors la rive méridionale du lac Michigan. Awist et Kimball étaient partis seuls. Après avoir remercié ceux de ses confrères qui désiraient l'accompagner, il n'avait point accepté leurs offres. Non, pas même un domestique. Seul, tout seul. Lui, on le voit, ne cherchait pas à passer incognito, comme Max Real ou Herman Tilbury. Il mettait les gens dans la confidence et eut volontiers écrit sur son chapeau « Quatrième partenaire du match Hyperbone ». Un nombreux cortège l'avait conduit à la gare, honoré de ses hurrahs, accablé de ses souhaits de bon voyage. Et il était si bien entraîné, si confiant, on le savait si débrouillard, en même temps si audacieux, si déterminé, que déjà plusieurs paris avaient été engagés sur sa tête. On l'avait pris à 1-2, et même 3, ce qui le flattait, et ne laissait pas d'être de bon augure. Toutefois, si Awist et Kimball avaient refusé d'associer quelques amis au hasard de ses déplacements à travers l'Union, il ne devait pas être réduit, on s'en aperçoit, à s'isoler dans son coin, à se concentrer en de muettes pensées, à ne se livrer qu'à des apartés silencieux. Loin de là. Tous les voyageurs avec lesquels il ferait route deviendraient ses compagnons. Il était un peu de la race de ces gens qui ne pensent que lorsqu'ils parlent, et ce n'est pas de parole qu'il se montrerait avare au cours de ses itinéraires. De sa bourse non plus. La caisse de la richissime Tribune lui était ouverte, et il saurait la rembourser de ses dépenses, en interviews, en descriptions, en nouvelles, en articles de toutes sortes, dont les péripéties du match lui fourniraient ample et intéressante matière. « Mais, lui demanda un gentleman, Yankee des pieds à la nuque, n'attachez-vous pas trop d'importance à cette partie imaginée par William J. Hyperbone ?»« Non, monsieur, répondit le reporter, et j'estime que si originale idée ne pouvait naître que dans une cervelle ultra-américaine. Vous avez raison, reprit un gros commerçant de Chicago. Tous les États-Unis sont sans dessus-dessous, et le jour de ses obsèques, on a pu voir de quelle popularité jouissait le défunt au lendemain de sa mort. Monsieur, lui demanda une vieille dame à râtelier et à lunettes, enfouie dans son coin sous ses couvertures, est-ce que vous avez suivi le convoi ? Comme si j'avais été un des héritiers de notre grand citoyen, répliqua le Chicagois, enflé d'une bouffée d'orgueil. Et je suis, on ne peut plus honoré, de me rencontrer avec l'un de ses futurs héritiers en allant à Détroit. Vous allez à Détroit ? Interrogea Awist et Kimball, qui lui tendit la main. À Détroit, Michigan. Eh bien, monsieur, j'aurai le plaisir de vous accompagner jusqu'à cette cité d'un si magnifique avenir, que je ne connais pas et que je désire connaître. « Vous n'en aurez pas le temps, monsieur Kimball !» déclara si vivement le Yankee qu'on eût pu le prendre pour un de ses parieurs. « Ce serait allonger votre itinéraire, et je le répète, vous n'avez pas le temps. »«
On a toujours le temps de tout faire !»
répondit Awiste Kimball d'un ton affirmatif qui ne lui fut pas défavorable. En effet, le wagon, fier de posséder un voyageur de ce tempérament, éclata en hips, dont les échos se répercutèrent jusqu'à la queue du train. « Monsieur ?» s'informa alors un clergyman d'âge mûr qui, son pince-nez aux yeux, le dévorait du regard. « Êtes-vous satisfait de votre premier coup de dé ?»«
Oui et non, mon révérend, »
répondit le journaliste d'un ton respectueux. « Oui, car mes partenaires, partis avant moi, n'ont pas dépassé la deuxième, la huitième et la onzième case, alors que je suis envoyé par deux et quatre à la sixième, et de là à la douzième. « Non, parce que c'est l'État de New York qui occupe cette sixième case où il y a un pont, dit la légende, et que ce pont, c'est la passerelle du Niagara. Or, trop connu le Niagara. Je l'ai visité 20 fois déjà. Usé, vous dis-je, usé aussi la chute américaine, la chute canadienne, la grotte des vents, l'île de la chèvre. Et puis, c'est trop près de Chicago. Ce que je veux, c'est voir du pays. C'est être trimballé aux quatre coins de l'Union. C'est me fourrer des milliers de milles dans les jambes. À la condition, toutefois, reprit le clergyman, que vous soyez toujours à l'heure dite.
Comme de juste, mon révérend, et croyez bien qu'on ne me prendra pas à manquer le rendez-vous d'une minute.
Cependant, fit observer un marchand de conserves alimentaires dont la fraîcheur de teint prévenait en faveur de ses propres marchandises. Il me semble, monsieur Kimball, que vous devez vous féliciter, puisque, après avoir posé le pied dans l'État de New York, vous vous rendez à celui de New Mexico. Ils ne confinent pas précisément l'un à l'autre.
« Peu !» s'écria le reporter. « Quelques centaines de milles. Qui les sépare ?»«
Et à moins, » ajouta le Yankee, « d'être envoyé à la pointe de la Floride ou au dernier village du Washington.
Voilà ce qui me plairait !»
déclara Aristé Kimball. « Traverser les territoires des États-Unis du nord-ouest au sud-est. »«
Mais, » demanda le clergyman, « est-ce que l'envoi à cette sixième case où il y a un pont ne vous oblige pas à payer une première prime ?»«
Bah, $1,000 Voilà qui ne ruinera pas la tribune. De la station de Niagara Falls, je lui lancerai un chèque télégramme qu'elle s'empressera d'acquitter. »
Et d'autant plus volontiers, déclara le Yankee, que ce match hyper bonne, c'est pour elle une affaire.
Qui deviendra une bonne affaire, répondit avec assurance Awiste Kimball.
J'en suis tellement certain, dit le commerçant chicagois, que si je pariais, « je parierai pour vous. »«
Et vous feriez bien, » répliqua le reporter. On jugera, d'après ses réponses, que sa confiance en lui-même égalait au moins celle que Jovita Follet avait en son ami Lissy Wagg.
« Pourtant, » fit alors remarquer le clergyman, « n'y a-t-il pas un de vos concurrents qui, à mon avis, serait plus à redouter que les autres ?»
« Lequel, mon révérend ?»«
Le 7e, monsieur Kimball, celui qui est uniquement désigné par les initiales XKZ. »«
Ce partenaire de la dernière heure ?» s'écria le journaliste.
« Allons donc, il bénéficie des circonstances mystérieuses qui l'entourent. C'est l'homme masqué dont les badauds raffolent en général. Mais on finira par percer son incognito. » Et quand ce serait le président des États-Unis en personne, il n'y aurait pas plus lieu de le craindre que n'importe quel autre des 7.
Du reste,
Il n'était guère probable que ce fût le président des États-Unis dont le testateur eût fait choix pour septième partant. En Amérique, d'ailleurs, personne n'eût trouvé malséant que le premier personnage de l'Union fût entré en lutte pour disputer à ses concurrents une fortune de 60 millions de dollars. 700 000 environ séparent Chicago de New York, et Awiste Kimball n'en avait à franchir que les deux tiers pour atteindre le Niagara, sans avoir à pousser jusqu'à la grande métropole américaine. Il n'avait aucune envie de la visiter, par cette raison qu'il la connaissait autant, à tout le moins, que les fâcheuses chutes devant lesquelles il devait se présenter. En quittant Chicago, après avoir contourné le golfe intérieur du lac Michigan, le train entra dans l'Indiana, limitrophe de l'Illinois, à la station d'Ainsworth, et il remonta jusqu'à Michigan City. Malgré son nom, cette ville n'appartient point à cet État, et elle est considérée comme un des ports de l'Indiana. Si le confiant reporter avait choisi cette voie au milieu du réseau de la région, s'il passa par New Buffalo, s'il s'arrêta quelques heures à Jackson, important centre manufacturier de plus de 20 000 âmes, s'il continua à s'élever vers le nord-est, c'est qu'il voulait visiter Détroit, où il arriva dans la nuit du 7 au 8 mai. Le lendemain, après un rapide sommeil dans la confortable chambre d'un hôtel d'où son nom rayonna à travers toute la ville, il fut salué dès l'aube par des centaines de curieux. Mieux que des curieux, de sympathiques partisans qui, pendant cette journée, entendaient ne pas le quitter d'une semelle. Peut-être regretta-t-il de ne pouvoir s'abriter sous le voile de l'incognito, puisqu'il ne s'agissait en somme que de parcourir la ville. Mais le moyen d'échapper à la célébrité et à ses inconvénients quand on est chroniqueur en chef de la tribune est l'un des sept du match Hyperbone. C'est donc en nombreuse et bruyante compagnie qu'il visita la métropole du Michigan, dont la modeste Lansing est la capitale. Cette prospère cité, née d'un petit fortin de traite établi par les Français en 1670, tient son nom du Détroit, large à cette place de 400 toises, par lequel le lac Huron déverse le trop-plein de ses eaux dans le lac Erie. En face s'élève la ville canadienne de Windsor, son faubourg, où le quatrième partant se garda bien de mettre le pied. Il eut à peine le temps de visiter cette métropole de 200 000 habitants, qui l'accueillirent avec enthousiasme, en faisant pour lui les vœux qu'ils eussent faits sans doute pour n'importe quel autre des partenaires. Awiste Kimball repartit le soir. S'il lui eût été permis de prendre les voies ferrées du Canada, de franchir par le sud la province de l'Ontario, il aurait pu, à travers le long tunnel creusé sous la rivière Saint-Clair à son débouché du lac Huron, gagner plus directement Buffalo et Niagara Falls. Mais le territoire du Dominion lui était interdit. Il lui fallut pénétrer dans l'état de l'Ohio, descendre jusqu'à Toledo, ville grandissante, bâtie à la pointe sud du lac Erie, obliquée vers Sandusky, au milieu des vignobles les plus riches de l'Amérique. Puis, en longeant le littoral est du lac, passer par Cleveland. Ah, la magnifique cité! Sa population de 262 000 âmes, ses rues ombragées d'érables, son avenue d'Euclide, les Champs-Élysées de l'Amérique, ses faubourgs étagés sur les collines, les richesses que lui versent incessamment les bassins pétrolifères de la région et dont Cincinnati aurait le droit d'être jalouse. Puis il toucha à Erie City de Pennsylvanie, puis il sortit de cet état à la station de Northville pour entrer dans celui de New York. Puis il brûla Dunkerque, éclairé par l'hydrogène de ses puits naturels. Et le soir du 10 mai, il arriva à Buffalo, la seconde ville de l'État, où, 100 ans avant, il eut rencontré des bisons par milliers, au lieu d'habitants par centaines de mille. Décidément, Awiste Kimball fit bien de ne pas s'attarder dans cette jolie ville, le long de ses boulevards, de ses avenues du Niagara Park, autour de ses entrepôts et de ses élévators, sur les bords du lac qui ouvre passage aux eaux du Niagara. Il importait qu'à 10 jours de là, dernier délai, il fût de sa personne à Santa Fe, la capitale du New Mexico. Un parcours de 1 400 000 que les railroads ne desservaient pas tout entier. Le lendemain donc, après un court trajet de 25 000 environ, il débarqua au village de Niagara Falls. Malgré tout ce que pouvait dire le reporter de cette célèbre cataracte, maintenant trop connue et trop industrialisée, et qui le sera bien davantage dans l'avenir lorsqu'on aura dompté ses 16 millions de chevaux, ce ne sont ni la porte des Adirondacks, ce merveilleux ensemble de défilés, de cirques, de forêts dont l'Union veut faire une propriété nationale, ni les palissades de Hudson, ni le parc central de la métropole, ni le Broadway, ni le pont de Brooklyn, si audacieusement jeté sur la rivière de l'Est, qui disputeront les touristes aux merveilles de la Horse Show Fall. Non, rien n'est comparable à ce tumultueux déversement des eaux du lac Erie dans le lac Ontario par le canal Niagarien. C'est le Saint-Laurent qui passe, se brisant à l'éperon de Gotisland pour former d'un côté la chute américaine, de l'autre la chute canadienne en fer à cheval. Et ces bondissements furieux au pied des deux cataractes et ces creusements verdâtres au centre de la seconde, après lesquels la rivière apaisée promène ses eaux tranquilles pendant 3 000 jusqu'à Suspension Bridge, où elle se déchaîne de nouveau en rapides effrayants. Autrefois, la Terrapin Tower se dressait sur les extrêmes roches de Gotisland, entourée de tourbillons dont l'écume pulvérisée jusqu'à sa tête formait le jour des arcs-en-ciel de soleil, la nuit des arcs-en-ciel de lune. Mais on a dû l'abattre, car la chute a reculé d'une centaine de pieds depuis un siècle et demi, et elle eut fini par tomber dans l'abîme. Actuellement, une hardie passerelle, jetée d'une rive à l'autre de la bruyante rivière, permet d'admirer le double courant dans toute sa splendeur. Awist et Kimball, escortés de nombreux visiteurs, américains et canadiens, vint se placer au milieu de cette passerelle, en prenant bien garde de ne pas empiéter sur la partie qui appartient au Dominion. Puis, après avoir poussé un « hurrah » que 1 000 bouches enthousiastes lancèrent à travers le brouhaha des eaux, il revint au village de Niagara Falls, dont trop d'usines enlaidissent maintenant le voisinage. Que voulez-vous? Un débit de 100 millions de tonnes par heure à utiliser. Le reporter n'alla donc pas s'égarer entre les verdoyants taillis de l'île de la Chèvre. Il ne descendit pas à la grotte des Vents sous le massif de l'île. Il ne s'aventura pas derrière les profondes nappes de Horse Show Fall, ce qui ne peut se faire que par la rive canadienne. Mais il n'oublia pas de se rendre au post-office du village, d'où il expédia un chèque de $1 000 à l'ordre de maître Thornbrock de Chicago. Chèque que le caissier de la tribune s'empresserait de payer à présentation. Dans l'après-midi, à la suite d'un magnifique lunch servi en son honneur, Awist et Kimball regagna Buffalo, et le soir même, il quittait cette ville afin d'effectuer dans les délais prescrits la seconde partie de son itinéraire. Au moment où il montait en wagon, le maire de la cité, l'honorable H. V. Exulton, lui dit d'un ton grave « C'est bon pour une fois, monsieur. » Mais ne vous amusez plus à flâner comme vous l'avez fait jusqu'ici. « Et si cela me convient ?» répliqua Awist et Kimball, qui ne parut pas goûter l'observation, même venue de si haut. « Il me semble que j'ai bien le droit. »« Non, monsieur. Pas plus qu'un pion n'a celui d'en prendre à son aise sur un échiquier. »« Eh, je m'appartiens, je suppose. » »« Profonde erreur, monsieur. Vous appartenez à ceux qui ont parié pour vous. et j'y suis de $5,000.
En somme, l'honorable V.H. Exulton avait raison, et dans son propre intérêt, le chroniqueur de la Tribune, lors même que ses chroniques en eussent souffert, ne devait avoir qu'une préoccupation, atteindre son poste par les voies les plus courtes et les plus rapides. Du reste, Awiste Kimball n'avait rien à apprendre dans cet état de New York, maintes fois visité par lui. Entre sa métropole et Chicago, les communications sont aussi nombreuses que faciles. C'est l'affaire d'une journée pour ces Américains, dont les trains détiennent le record du millier de miles en 24 heures. En somme, Awiste Kimball n'aurait pas eu lieu de regretter son coup de début. Après l'état de New York, n'était-il pas envoyé dans l'état de New Mexico, où ses curiosités de touriste pourraient être satisfaites? Il était à supposer, d'ailleurs, que le caprice des dés y expédierait plusieurs des joueurs du match qui ne l'avaient pas encore visité, tels Herman Tilbury, Lissy Wagg et son inséparable Jovita Follet. L'État de New York est le premier de la Confédération par sa population qui ne compte pas moins de 6 millions d'habitants, s'il n'est que le 29e avec une superficie de 49 000 milles carrés. C'est l'Empire State, ainsi le désigne-t-on quelquefois, disposé en forme de triangle dont les côtés sont formés de lignes droites, choisies arbitrairement à défaut de frontières naturelles. Il est vrai, ceux de ses partenaires qui y viendraient n'auraient pas plus que Awiste Kimball la possibilité d'y séjourner pendant les 2 semaines réservées entre chaque tirage. Comme lui, après avoir fait acte de présence sur le pont du Niagara, il serait dans l'obligation de gagner Santa Fe, la capitale du New Mexico. Si, à la rigueur, ils allaient jusqu'à New York, les autres villes ne recevraient point leur visite. Cependant, la plupart méritent d'être vues. Albany, le siège de la législature, peuplé de 110 000 habitants, fier de ses musées, de ses écoles, de ses parcs, de son palais, qui n'a pas coûté moins de 20 millions de dollars. Rochester, la cité de la farine, manufacturière par excellence, et puissamment aidée dans sa production industrielle par les laborieuses chutes du Genesee. Syracuse, la riche ville du sel, que lui fournissent inépuisablement les salines de l'Onondaga. Et nombre d'autres, toute une famille de cités que l'État peut montrer avec un juste orgueil. D'avoir visité sa métropole, ce serait déjà quelque chose, et ça vaut le voyage, comme on dit vulgairement. Il faut avoir vu ce New York, entre l'Hudson et l'East River, étendu sur cette presqu'île de Manhattan, dont il couvre 106 km², soit 12 000 hectares, et qui en occupera 360, plus que Paris, plus que Londres, lorsque Brooklyn et Long Island auront été réunis dans le même municipe. Il faut avoir admiré ses boulevards, ses monuments, ses 1000 églises, et ce n'est pas trop pour 1700 000 habitants, son Broadway, sa Fifth Avenue, longue de 7 000, sa cathédrale de Saint-Patrice, bâtie en marbre blanc, son Central Park de 345 hectares, avec pelouse, bois, cours d'eau, et auquel aboutit le grand aqueduc du Croton, son pont de Brooklyn sur l'East River, en attendant celui qui traversera l'Hudson, son port, dont le mouvement commercial se chiffre par 800 millions de dollars, sa vaste baie, semée d'îles, et entre autres, Bedloe's Island, où se dresse la gigantesque statue de Bartholdi, la liberté éclairant le monde. Mais, on le répète, tout ce merveilleux n'aurait pas eu pour le chroniqueur en chef de la Tribune l'attrait de la nouveauté. Après la visite au Niagara, il allait se conformer minutieusement à son itinéraire sans s'en écarter. En effet, on était au 11 mai, et il fallait qu'il fût à Santa Fe le 21 au plus tard, avant midi. Or,
deux États séparés par 15 à 1600 milles ne sont pas précisément voisins l'un de l'autre. En quittant Buffalo, Awisht et Kimball s'étaient proposés de revenir à Chicago afin de prendre le Grand Trunk en direction de l'ouest. Mais, comme il ne s'en détache aucun embranchement qui le mette en communication directe avec Santa Fe, c'eût été une faute, car il y aurait un très long trajet de voiture à travers un pays mal desservi au point de vue des transports. Heureusement, ses confrères de la Tribune, après une étude approfondie de cette partie du Far West, avaient combiné un itinéraire qui lui fut indiqué par un télégramme envoyé à Buffalo. Ce télégramme était conçu en ces termes. « Revenir de Niagara Falls à Buffalo et redescendre jusqu'à Cleveland. Traverser obliquement l'Ohio par Columbus et Cincinnati, l'Indiana par Lornierburg, Madison, Versailles et Vincennes, le Missouri par Salem, Belley et Saint-Louis. Choisir la ligne de Jefferson pour Kansas City. Franchir le Kansas par la voie ferrée plus méridionale, Lawrence, Emporia, Toledo, Newton, Hutchinson, Plum Butte, Fort Zara, Land, Petersburg, Dodge City, Fort Atkinson, Sherbrooke, puis l'est du Colorado par Grenade et Las Arimas. Prendre l'embranchement à Pueblo et par Trinidad, gagner Clifton sur la frontière du New Mexico. Enfin, par Cimarron, Las Vegas et Galateo, rejoindre le petit tronçon qui remonte à Santa Fe. Ne pas oublier que le signateur de présente dépêche a mis $100 sur vous et que tout autre itinéraire risquerait de les lui faire perdre. Bruman S. Bicorn, secrétaire de la rédaction. Comment celui des sept, que ses amis servaient avec tant de zèle, qui lui facilitait avec tant de précision l'accomplissement de sa tâche, n'eût-il pas eu les meilleures chances pour arriver bon premier? Oui, sans doute, mais à la condition de suivre le conseil de l'honorable H. V. Exulton, c'est-à-dire de ne pas s'attarder en admirations intempestives. Entendu, mon brave Bicorn, c'est l'itinéraire que je suivrai, se dit Awisht et Kimball, et je ne me permettrai pas le plus léger écart. Pour le chemin de fer, il n'y a pas à s'en inquiéter. Sois tranquille, aimable secrétaire de la rédaction. S'il y a des retards, ils ne proviendront ni de mon étourderie, ni de ma négligence. Et tes $100 seront aussi énergiquement défendus que les 5 000 de sa hôtesse, le premier magistrat de Buffalo. Je n'oublie pas que je porte les couleurs de la Tribune. » Un jockey n'eût pas mieux dit. Ce jockey-là, il est vrai, était plutôt un centaure et courait pour son propre compte. Et c'est ainsi que par une judicieuse combinaison d'horaires et de trains, sans se presser, se reposant la nuit dans les meilleurs hôtels, Awisht et Kimball traversa en 60 heures les 5 États de l'Ohio, de l'Indiana, de l'Illinois, du Missouri, du Kansas, du Colorado, et s'arrêta le 19 au soir à la station de Clifton, sur la frontière du New Mexico. Là, si le reporter n'échangea que 546 poignées de main, c'est qu'il n'y avait que 273 biman dans ce petit village, perdu au fond des immenses plaines du Far West. Il comptait bien passer une bonne nuit à Clifton. Mais lorsqu'il descendit du wagon, quel fut son désappointement, en apprenant que, pour cause d'importantes réparations, la circulation serait interrompue pendant plusieurs jours sur le Railroad. Et il était encore à 125 milles de Santa Fe, et il n'avait plus que 36 heures pour les faire. Le sage Bruman S. Bicorn n'avait pas prévu cela. Heureusement, au sortir de la gare, Awisht et Kimball se trouva en présence d'un type, moitié américain, moitié espagnol, qui l'attendait. Dès qu'il aperçut le reporter, cet homme fit claquer 3 fois son fouet. « triple pétarade dont, paraît-il, il se servait d'habitude pour saluer les gens. Puis, en une langue qui rappelait plutôt celle de Cervantes que celle de Cooper. « Ah oui, j'te Kimball ?» dit-il. « C'est moi. Voulez-vous que je vous conduise à Santa Fe ?»«
Si je le veux. »
« Convenu.
Tu te nommes ?»«
Isidorio. » »«
Isidorio me va. » »«
Ma voiture est là, prête à partir. » »«
Partons. Et n'oublie pas, mon ami, que si une voiture marche grâce à son attelage, c'est grâce à son cocher qu'elle arrive. »
L'hispano-américain comprit-il tout ce qu'il y avait d'insinuant dans cet aphorisme ?
Peut-être.
C'était un homme de 45 à 50 ans. La peau très basanée, l'œil très vif, la physionomie goguenarde. Un de ces malins qui ne se laissent pas facilement rouler. Quant à penser qu'il fut fier d'avoir à conduire un personnage qui avait une chance sur 7 de valoir 60 millions de dollars, le reporter ne voulait pas en douter, bien que rien ne fût moins sûr. Awiste Kimball occupait seul la voiture. Ce n'était point un stage à 6 chevaux, mais une simple carriole qui trouverait à relayer aux pueblos de la route. Le véhicule s'élança sur le chemin chaotique de l'Obes Trail, coupé de nombreux creeks qu'il passait à gué, s'approvisionnant au relais, se reposant quelques heures de nuit. Le lendemain, au petit jour, la carriole avait franchi une 40 milles par Cimarron, enlongeant la base des White Mountains, sans avoir fait aucune mauvaise rencontre. Du reste, il n'y a plus rien à redouter des Apaches, des Comanches et autres tribus de peau rouge qui couraient autrefois la contrée, et dont quelques-unes ont obtenu du gouvernement fédéral de conserver leur indépendance. Dans l'après-midi, la voiture avait dépassé Fort Union, Las Vegas, et elle s'engagea à travers les défilés de Morro Peaks. Route montueuse, difficile, dangereuse même, en tout cas peu propice à un rapide cheminement. En effet, à partir de ces basses plaines, il fallait s'élever de 700 à 800 toises, qui est l'altitude de Santa Fe au-dessus du niveau de la mer. Au-delà de cette énorme échine du New Mexico, s'étend le bassin arrosé par les nombreux tributaires qui font du Rio Grande del Norte l'un des plus magnifiques cours d'eau du versant ouest de l'Amérique. Là s'engage l'importante voie qui va de Chicago à Denver et favorise le commerce avec les provinces du Mexique. Pendant cette nuit du 20 au 21, l'allure de la carriole fut bien lente et bien rude. L'impatient voyageur, non sans raison, eut cette crainte de ne point arriver à temps. De là, exhortation et objurgation incessante adressée au flegmatique Isidorio.
« Mais tu ne marches pas !»«
Mais que voulez-vous, monsieur Kimball ? Nous n'avons que des roues, et il nous faudrait des ailes. »
« Mais tu ne comprends donc pas l'intérêt que j'ai à être le 21 à Santa Fe. »«
Bon, si nous n'y sommes pas ce jour-là, nous y serons le lendemain. »«
Mais il sera trop tard. »«
Mon cheval et moi, nous faisons tout ce que nous pouvons, et on ne saurait exiger plus d'une bête et d'un homme. » Le fait est qu'Isidorio n'y mettait point de mauvaise volonté et ne s'épargnait guère. C'est alors que Awiste Kimball crut devoir l'intéresser plus directement à la partie qu'il jouait. Aussi, tandis que l'attelage s'exténuait en remontant l'un des plus raides défilés de la chaîne, au milieu d'épaisses forêts d'arbres verts, en suivant les lacets d'un labyrinthe semé d'éboulis et de troncs abattus par l'âge, il dit à son automédon
« Isidorio, j'ai une proposition à te faire. »
« Faites, monsieur Kimball.
$1,000 pour toi, si je suis demain, avant midi, à Santa Fe. »«
$1,000, que vous dites ?» répéta l'hispano-américain en clignant de l'œil.
« $1,000, à la condition, bien entendu, que je gagne la partie. »«
Ah !» fit Isidorio. « À la condition que... »«
Évidemment !»
« Soit, ça va tout de même. » Et il enleva son cheval d'un triple coup de fouet. À minuit, la carriole n'avait encore atteint que le haut de la passe, et les inquiétudes de Hawist et Kimball redoublèrent. C'est pourquoi ne se contenons plus.
Isidorio, déclara-t-il en lui frappant sur l'épaule, j'ai une nouvelle proposition à te faire.
Faites, monsieur Kimball.
10 000.
Oui, $10,000, si j'arrive à temps.
10 000, que vous dites ?
Répéta Isidorio.
10 000.
Et toujours si vous gagnez la partie.
Assurément.
Pour redescendre la chaîne, sans aller jusqu'à Callisteo prendre le petit tronçon du Railroad, ce qui eût fait perdre un certain temps, puis suivre la vallée du Rio Chiquito et atteindre Santa Fe, soit une 50 miles, il n'y avait plus que 12 heures. Il est vrai, la route était praticable, peu montante, et il eût été difficile d'avoir un meilleur cheval que celui du relais de Tios. Donc, à la rigueur, il était possible d'arriver au but dans le délai fixé, mais à la condition de ne pas tarder une minute, et si l'état climatérique restait favorable. Or, la nuit était magnifique. Une lune qui semblait avoir été commandée par une dépêche de l'obligeant Bricorne. Température agréable, jolie brise de nord, très rafraîchissante, vent arrière, qui, du moins, ne contrarierait pas la marche du véhicule. Le cheval piaffait d'impatience à la porte de l'auberge, une bête pleine de feu, de cette race mexico-américaine élevée dans les corrales des provinces de l'Ouest. Quant à celui qui tenait les rênes de la carriole, on n'aurait pas trouvé mieux. $10,000 de bonne main, même en ses rêves les plus insensés, il n'avait jamais entrevu le miroitement d'une pareille somme. Et cependant, Isidorio ne paraissait pas aussi émerveillé de ce coup de fortune qu'il aurait dû l'être, à ce que pensait Hawist et Kimball. « Est-ce donc, se demanda-t-il, que le brigand voudrait davantage ? 10 fois plus, par exemple ? Après tout, qu'est-ce que des milliers de dollars au milieu des millions de William J. Hyperbon ? Une goutte d'eau dans la mer ? Eh bien, s'il le faut, j'irai jusqu'à 100 gouttes. » Et au moment de partir, « Isidorio, lui dit-il à l'oreille, il ne s'agit plus maintenant de $10,000. »«
Tiens, voilà que vous retirez votre promesse !»
se récria Isidorio d'un ton sec.
« Eh non, mon ami, non ! Bien au contraire, c'est $100,000 pour toi, si nous sommes avant midi à Santa Fe. »
« $100,000, que vous dites ?» répéta Isidorio, l'œil gauche à demi fermé. Puis il ajouta,
« Toujours si vous gagnez ?»«
Oui, si je gagne. »
« Est-ce que vous ne pourriez pas m'écrire cela sur un bout de papier, monsieur Kimball, rien que quelques mots ?»«
Avec ma signature ?»«
Votre signature et votre paraphe. »
Il va de soi que dans une affaire de cette importance, la parole échangée ne pouvait suffire. Sans hésiter, Hawist et Kimball tira son carnet et sur un des feuillets fit un engagement de $100,000 au profit du sieur Isidorio de Santa Fe, engagement qui serait fidèlement acquitté si le reporter devenait l'unique héritier de William J. Hyperbon. Puis il signa, paraffa et remit le papier à son destinataire. Isidorio le prit, le lut, le plia soigneusement, le fourra dans sa poche et dit « En route !» Ah, ce que fut cette galopade échevelée, à bride abattue, cette course vertigineuse de la carriole sur la route qui longe la rive du Rio Chiquito. Et malgré tant d'efforts, au risque de briser le véhicule, de verser dans la rivière, Santa Fe ne put être atteinte qu'à 9:50. On ne compte pas plus de 7 000 habitants dans cette capitale. Si le New Mexico, depuis 1850, est annexé au domaine de la République fédérale, son admission au nombre des 50 États ne datait que de quelques mois, ce qui avait permis à l'excentrique défunt de le placer sur sa carte. D'ailleurs, il est manifestement resté espagnol de mœurs et d'aspect, et le caractère anglo-américain n'y gagne pas rapidement. Quant à Santa Fe, sa situation au cœur du gisement argentifère lui assure un avenir de toute prospérité. À entendre ses habitants, la ville repose même sur une épaisse base d'argent, et on a pu extraire du sol de ses rues un minerai qui donnait jusqu'à $200 par tonne. Quoi qu'il en soit, la ville offre peu de curiosité aux touristes, si ce n'est les ruines d'une église bâtie par les Espagnols près de 3 siècles auparavant, et un palais des gouverneurs, humble bâtisse dont l'unique rez-de-chaussée est ornée d'un portique à colonnettes de bois. Quant aux maisons, espagnoles et indiennes, construites en adobe ou briques non cuites, quelques-unes ne forment qu'un cube de maçonnerie, percé d'embrasures irrégulières, comme ils s'en rencontrent dans les pueblos indigènes. Awiste Kimball fut accueilli ainsi qu'il l'avait été sur tout son parcours, mais il n'eut pas le temps de répondre aux 7000 mains qui se tendirent vers lui autrement que par un merci général. En effet, il était déjà 11h50, et il fallait qu'il fût au bureau du télégraphe avant que le dernier coup de midi eût sonné à l'horloge municipale. 2 télégrammes l'y attendaient, expédiés le matin et presque en même temps de Chicago. Le premier, signé de Maître Thornbrock, lui notifiait le résultat du 2e coup de dé qui le concernait. Par 10, formé des points 5 et 5. Le 4e partenaire était expédié à la 22e case, South Carolina. Eh bien, cet intrépide, cet infatigable traveleur qui rêvait d'itinéraires insensés était servi à souhait. 1500 bons miles à dévorer en se dirigeant vers le versant atlantique des États-Unis. Il ne se permit que cette observation. Avec la Floride, j'aurais eu quelques centaines de milles en plus. À Santa Fe, les Anglo-Américains voulurent fêter la présence de leurs compatriotes en organisant des meetings, des banquets et autres cérémonies de ce genre. Mais, à son grand regret, le reporter en chef de la tribune refusa. Instruit par l'expérience, il était résolu à tenir compte des conseils de l'honorable maire de Buffalo, à ne s'attarder sous aucun prétexte, à voyager par le plus court, quitte à excursionner quand il serait arrivé à son poste. Au surplus, le dernier télégramme, à lui envoyé par le précautionneux Bicorn, contenait un nouvel itinéraire, non moins bien étudié que le précédent, auquel ses confrères le priaient de se conformer en partant dès la première heure. Aussi se décida-t-il à quitter le jour même la capitale du New Mexico. Les cochers de la ville n'ignoraient pas ce que ce voyageur ultra généreux avait fait pour Isidorio. Il n'eut donc que l'embarras du choix, et tous lui offrirent leur service, dans la pensée qu'il ne serait pas moins bien partagé que leurs camarades. Sans doute, on s'étonnera qu'Isidorio n'eût pas réclamé l'honneur, presque le droit, de reconduire le reporter à la plus prochaine ligne de Railroad, et qui sait, avec la pensée d'ajouter $100,000 à ce que lui assurait l'engagement d'Ariste et Kimball. Mais il est probable que ce très pratique hispano-américain était non moins satisfait que fatigué. Il vint cependant faire ses adieux au journaliste, qui, après avoir traité avec un autre conducteur, se préparait à partir dès 3 heures de l'après-midi. « Eh bien, mon brave, » lui dit Awiste Kimball. « Ça va bien ?»«
Ça va bien, monsieur. »«
Et maintenant, je ne crois pas en être quitte avec toi, parce que je t'ai associé à ma fortune. »«
1000 et 1000 fois bon, monsieur Kimball. Je ne mérite pas... »«
Si, si, j'ai des remerciements à t'adresser, car sans ton zèle, ton dévouement, je serais arrivé trop tard. J'eusse été mis hors de partie. » Et il ne s'en est fallu que de 10 minutes.
Isidorio écouta cette élogieuse appréciation, calme et goguenard, suivant son habitude, et dit « Puisque vous êtes content, monsieur Kimball, je le suis moi aussi. »
Et les deux font la paire, comme disent nos amis les Français, Isidorio. Alors, c'est comme pour les chevaux d'attelage.
Juste. Et quant à ce papier que je t'ai signé, conserve-le précieusement. Puis, quand tu m'entendras proclamer dans le monde entier comme le vainqueur du match Hyperbone, fais-toi conduire à Kifton. Prends le chemin de fer qui te débarquera à Chicago et passe à la caisse. Sois sans inquiétude, je ferai honneur à ma signature.
Isidorio hochait la tête, se grattait le front, clignait de l'œil, dans l'attitude d'un homme assez indécis qui veut parler et hésite à le faire.
« Voyons, lui demanda Awiste Kimball, est-ce que tu ne te trouves pas suffisamment rémunéré ?»«
Sans doute, répondit Isidorio, mais c'est 100 000 $.
C'est toujours si vous gagnez. »
« Réfléchis, mon brave, réfléchis. Est-ce qu'il peut en être autrement ?»«
Pourquoi pas ?»«
Voyons, me serait-il possible de te verser une pareille somme si je n'empochais pas l'héritage ?»«
Oh, je comprends, monsieur Kimball, je comprends même très bien. Aussi, je préférerais... »«
Quoi donc ?»«
100 bons $. »«
100 au lieu de 100 000 ?»
« Oui, » répondit placidement Isidorio. « Que voulez-vous ? Je n'arrive pas à compter sur le hasard. Et 100 bons $ que vous me donneriez tout de suite, ce serait plus précieux. »
Ma foi, et peut-être au fond regrettait-il sa générosité. Awiste Kimball tira de sa poche 100 $ et les remit à ce sage, qui déchira le billet et en rendit les morceaux. Le reporter partit accompagné de bruyants souhaits de bon voyage et disparut au galop par la grande rue de Santa Fe. Cette fois, sans doute, le nouveau conducteur, le cas échéant, se montrerait moins philosophe que son camarade. Et quand on interrogea Isidorio sur la détermination qu'il avait prise,
« Bon, fit-il, 100 $, c'est 100 $. Puis, je n'avais pas confiance. » Un homme si sûr de lui, voyez-vous, je ne mettrai pas 25 cents sur sa tête. »